Quand Emmanuel Macron vampirise en vain De Gaulle. Par Antoine Perrault. Chronique. Ventriloque et transformiste comme jamais, notre président Frégoli a inauguré non pas l'année sainte, mais l'année De Gaulle, en se transportant dans les Hauts-de-France. Il y apparut sous un jour étonnant de sous-préfet aux champs. Emmanuel Macron, si plein de son vide à combler, saute sur tout ce qui transcende, histoire de se donner une contenance. Ce 17 mai, il s'agissait d'exalter un colonel de bientôt 50 ans, qui tenta lors de la calamiteuse bataille de France d'arrêter l'ennemi nazi à la tête de quelques chars d'assaut à Montcornet, dans l'Aisne, 80 ans plus tôt. Charles de Gaulle. L'actuel président de la République, rendant hommage à son prédécesseur, n'aura jamais paru aussi poussif et mal à l'aise. On songeait au vers de Victor Hugo. « Toi, ton singe, marche derrière. Petit, petit. » Comment un chef de l'exécutif ayant présidé à l'impéritie française face à la pandémie en 2020 peut-il se mettre dans les pas de celui qui se souleva en 1940 contre l'impéritie française de l'exécutif face à l'invasion hitlérienne? Monsieur Macron s'y essaya tant mal que bien. Ce fut comme le désastre métaphorique, en rase campagne, de tout ce qu'il n'est point et de tout ce qui lui échappe. En 2021, Macron sera Napoléon pour le bicentenaire de sa mort et Pompidou pour les 110 ans de sa naissance. En 2022, il sera Mendès France pour les 40 ans de son trépas. De même qu'il sera Kennedy en 2023 pour les 60 ans de son assassinat. Vivement l'apothéose de l'an 2026, les 100 ans de Giscard. Le tout sans jamais rien saisir, comprendre, ni éprouver des époques ainsi passées en revue. Sans rien discerner des modèles essayés, adoptés, dévorés dans une forme d'anthropophagie symbolique, frénétique et grisante. On aura tout vu, mais en aveugle démesuré. Aucune incarnation. Monsieur Macron, éternel cagneux à la recherche de soi-même, se voudrait baudelairien. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Or, il nous apparaît dans son mal fondé, né de la dernière pluie. Ce triomphe de l'imposture permanent écorche nos mémoires, faites d'expériences vécues et non de travestissements soudains. J'ai vu mourir De Gaulle. En novembre 1970, le ministre de l'Éducation nationale, Olivier Guichard, avait demandé que fût lu en classe l'appel du 18 juin. Notre professeur de français de 6e, personnification de la gauche à œillères, s'en était acquitté aussi piteusement que possible. Le professeur d'histoire, un vieux jaurétien, Charles Juillard, en eut vent. Il nous offrit alors une présentation lumineuse de ce texte incomparable, où résonnent trois interrogations, telles les trois coups du destin, suivies d'un adverbe de trois lettres claquant au vent de l'histoire. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. J'ai vu mourir les gaullistes. En 1990, Mitterrand, régnant et ne cachant pas son peu de foi, voire son exaspération jalouse face à tant de gaulomania. En 90 furent organisées des commémorations en profusion. Le centenaire de la naissance, le 20e anniversaire de la mort et le cinquantenaire de l'appel, que l'eut Pierre Dux au pied du Louvre lors d'une incroyable cérémonie. Les invités, massés sur le pont du carrousel, aperçurent au-dessus de leur tête voler un avion semblable au coucou prêté par Churchill qui amena de Bordeaux à Londres, le 14 juin 1940 au matin, Charles de Gaulle et son aide-de-camp, le lieutenant Geoffroy de Courcelles. Courcelles était alors encore vivant. Il devait décéder en 1992, comme tous ses témoins filmés à la fin des années 1980 par Jean Labib, pour sa série fantastique en 6 épisodes menée avec Jean Lacouture. De Gaulle ou l'éternel défi. Un jeune journaliste du nom d'Éric Zemmour en rendait compte alors dans Le Quotidien de Paris. À l'occasion d'une projection organisée dans la grande salle de la Vidéothèque de Paris, au Forum des Halles, Ce fut un moment inoubliable que de voir apparaître à l'écran, puis en chair et en os à la sortie, les survivants de l'époque, dont l'extraordinaire Étienne Burin-Desrosiers, 1913-2012. J'ai vu Maurice Schumann chanter comme un gosse, à 83 ans, l'hymne de la division Leclerc sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, en août 1994. Puis entonner le traîne d'André Malraux, en 1996, lors de la panthéonisation de l'écrivain, que commentait à la télévision Alain Perfitte, flanqué de Régis Debray. Ô miracle des recompositions mémorielles! De Gaulle est si plein, si riche, si complexe, et parfois si contradictoire, tout le contraire de la vacuité macronienne, qu'il est devenu tel un test de Rorschach. Chacun voit Charles à sa porte. Faisant pièce au rang moisi des esprits étroits et autres godillots, ou hommes de sac et de cordes, formant les cohortes gaullistes, des chevaux légers ont existé de tout temps. On les appelait gaullistes de gauche. On y trouvait Maurice Clavel, avant qu'il ne rompît à la suite de l'affaire Ben Barka en 1966. On y trouvait René Capitan et Louis Vallon, ce dernier appelant l'amiral Thierry d'Argentlieu, tient-lieu d'argenterie. Tout était dit. Jacques Debus-Bridel, dans son « De Gaulle contestataire » publié en 1970, suivait une logique imparable. « Je suis gaulliste, je suis contestataire, donc De Gaulle était contestataire. » Régis Debray devait reprendre ce flambeau en l'ennoblissant, au point de créer une sorte de gaullisme d'extrême-gauche post-mortem, avec son « À demain De Gaulle » publié en 1990. Cela fâcha l'amiral Philippe de Gaulle. Né en 1921, il devrait fêter ses 99 ans un 28 décembre prochain. Il n'aura jamais cessé de figurer la part de décombre d'un père qui ne lui légua aucune intelligence politique. L'amiral, c'est le gaullisme réduit aux acquêts, givarisé, rance et renfermé. Le gaullisme naphtaline. Il se devait donc de réagir avec un coup de barre à droite toute. De Gaulle, mon père. Entretien avec Michel Thauriac en 2003 et 2004. Laissons l'amiral à sa place, donc définitivement de côté, et citons Debray. Dans son hymne au général Micro, on trouve ceci, publié voilà donc 30 ans, et qui tombe à pic en autant fâcheusement nationaliste, sous-barésien. Au langage barbare de la communauté, héréditaire, raciale, il opposa celui de rassemblement, acte individuel et libre. Une nation dont nul ne peut disposer comme d'un simple collectif, mais qui ne s'impose pas à nous comme un devoir de communion, n'est pas le masque d'une volonté de puissance. Elle ne peut retourner le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit négatif de résistance à l'oppression, en un droit de l'écrasement du voisin, parce que cette nation-là ne se reconnaît aucune supériorité ontologique sur les autres. Elle exprime un désir de liberté, non de domination. Régis Debray ajoutait, toujours dans « À demain de Gaulle », le romantisme allemand a donné ses titres de légitimité au pangermanisme. De Gaulle ne lui a pas opposé de « pangalicisme ». La nation à la française, héritage de 89 et de 93, n'est ni fin en soi ni valeur suprême, mais le premier degré de l'universel qui ouvre le patriote à l'humanité entière au lieu de l'enfermer dans son petit territoire animal. C'est sans doute ainsi qu'il fallait entendre son « mon Dieu comme vous êtes français » place de la Savane à Fort-de-France en Martinique le 23 mars 1964. Le général de Gaulle pouvait barboter en privé au niveau du Café du Commerce, s'il faut en croire les confidences recueillies sur le vif par Alain Perfitte et distillées 30 ans plus tard. « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. » Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront peut-être 20 millions et après-demain 40 ? Si nous faisions l'intégration, si tous les Arabes et les Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus Colombelles et deux églises, mais Colombelles et deux mosquées. Mais Charles de Gaulle, un homme d'avant-hier et d'après-demain, signé André Malraux, pouvait aussi et surtout être la grande âme du large. C'est ce qu'écrit Régis Debray à la fin de son panégyrique. Artiste, rebelle et croyant, à sa France, qui n'est sans doute pas la vôtre ni tout à fait la mienne. Mais en le saluant lui, vous saluerez d'avance tous les imprévisibles qui, sur notre champ de cendres, feront lever des vivants. Il se sera trouvé un Emmanuel Macron pour se persuader que de telles lignes s'adressaient d'avance à lui, auxquelles reviendrait la tâche, sur notre champ de cendres, de faire lever des vivants. Chacun s'y croit parfois, tant les institutions de la Ve République rendent fou. On prête à Charles de Gaulle ce mot quand, vers 1965, Henri d'Orléans, prétendant au trône de France, manifestait quelques visées. Le comte de Paris à l'Élysée. Pourquoi pas la reine des Gitans? Nous nous retrouvons donc avec Emmanuel Macron en lieu et place du grand homme, dont il va porter la défroque le plus longtemps possible en cette année de Gaulle. Victor Hugo avait fixé par anticipation l'apport formidable de l'un et le rôle minuscule de l'autre. Quand il tomba, lâchant le monde, l'immense mer ouvrit à sa chute profonde le gouffre amer. Il y plongea, sinistre archange, et s'engloutit. Toi, tu te noieras dans la fange, petit, petit. Mediapart.